C'est un séisme pour l'Église en France après la présentation du rapport de la CIAS, que l'on nomme aujourd'hui du nom de son président, hein, le rapport Sauvé, un rapport sur la pédocriminalité dans l'Église avec 216 000 victimes de clercs ou religieux, 330 000 si l'on compte les victimes de laïcs en mission. L'Église est l'institution où le taux, je cite, de violence sexuelle sur mineurs est le plus élevé après la famille. C'est ce qui a été donc présenté ce mardi. Des chiffres qui ont été jugés comme accablant. Monseigneur Xavier Mal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'évêque du diocèse de Gap et d'Embrun, je le disais, accablant. Est-ce que vous imaginiez ces chiffres et ces impacts également?
Alors, les chiffres en tant que tels, non, je ne pouvais pas imaginer l'ampleur des choses. Je connaissais depuis 4 ans que je suis évêque, la gravité de ces faits et les conséquences sur les personnes. Parce que derrière les chiffres qui peuvent paraître, gigantesques, et à la fois qui peuvent ne pas nous toucher tellement c'est gros, quoi. Il faut penser qu'il y a des visages, qu'il y a des vies brisées. Moi, j'en connais un certain nombre. J'avais encore tout à l'heure un SMS d'une victime, vous voyez. Donc, il y a une personne victime. Et donc, il y a des visages. Donc, c'est surtout ça, quoi. Parce que les chiffres sont tellement gros que je me suis rendu compte que pour certains des chrétiens avec qui j'ai parlé, ça ne veut plus rien dire, quoi. Mmh. Donc je veux leur redire, derrière, il y a vraiment des personnes. Il y a des personnes qu'on a rencontrées, alors pas toutes, loin de là. Il faut savoir que celle qu'on a rencontrée, c'est la face émergée de l'iceberg qui est gigantesque en dessous. Et peut-être que ce rapport Sauvé, que nous avons voulu, nous les évêques, pour faire la lumière, eh bien, permettra aussi à d'autres personnes victimes de venir à la lumière. Et c'est ce que je souhaite pour elles, pour tout le monde.
Votre parole est importante aujourd'hui, puisque en octobre 2018, vous avez été presque l'un des premiers à demander pardon. Et vous l'expliquiez, mon état d'esprit est celui d'un père de famille qui va demander pardon à son voisin à qui son enfant a causé un grand tort. Ce tort est d'abord et principalement fait aux personnes victimes et à leur famille. C'est ensuite un tort fait à l'ensemble des chrétiens. C'est aussi une offense à notre Dieu Trinité dont le cœur doit saigner. C'est enfin un tort fait aux très nombreux prêtres fidèles. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, au sein du diocèse de Gap et d'Embrun, à mener, dès votre arrivée, une mission, des cellules qui ont été ouvertes, des cellules d'écoute
et de veille, c'est-à-dire un petit groupe autour de moi pour me conseiller, pour ne pas faire d'erreur. Parce que quand on est curé de campagne, j'étais curé de campagne avant, on n'est pas préparé à ça. À tel point qu'avant que je sois ordonné évêque, une journaliste, après l'annonce de ma nomination, me demande « qu'est-ce que vous ferez contre la pédophilie ?» Je suis tombé des nues, je n'ai pas su quoi répondre à l'époque, parce que je n'imaginais pas, comme simple curé de campagne en Touraine, ce qui allait m'attendre en réalité. Et peu de temps après, j'ai reçu un dossier assez épais de la part d'une famille, d'un prédateur multirécidiviste, un dossier terrible. Il se trouve que ce prêtre, qui était un religieux, bon, les choses sont publiques au moins sur celui-là, les gens qui lisent la presse locale savent de qui il s'agit, et il était encore en fonction, vous voyez. Et donc j'ai tout de suite pris en chose les mains, je l'ai convoqué avec mon petit groupe, le canoniste, etc. Et quand je me suis rendu compte qu'en réalité il niait les choses, je me suis dit, c'est pas possible, quoi, ce gars-là, il ne peut pas rester, quoi. Donc j'ai pris conseil vraiment et j'ai demandé à son supérieur de le retirer de sa mission, ce qui a été fait après. Mais parce que derrière tout ça, vous voyez, quand je disais dans ma lettre pastorale d'octobre 18, je suis le père de... le père de famille. Et c'est vrai que nous, évêques, dans la tradition de l'Église, on est aussi le père des prêtres. Et alors, la question, c'était à l'époque, est-ce qu'un père va porter au commissariat son fils, quoi ? Et ben, la réponse qui m'a été faite par un vieux sage, un vieil évêque, était de dire, oui, mais tu es aussi le père des victimes.
Et justement,
c'est ça qui a ouvert mes yeux, en fait. C'est cette phrase-là, tu es le père des victimes aussi. Oui.
Ça amène justement sur cette déclaration qui fait beaucoup parler aujourd'hui, hein, ces propos qui suscitent une réaction, ceux du président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, hein, le président de la conférence, qui était sur France Info. Je vous propose d'écouter justement cette déclaration.
Parce que la confession s'impose, et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Maintenant, il faut que nous voyons, parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu. J'ai eu l'occasion d'exposer ça l'année dernière à une commission sénatoriale qui a très bien compris de quoi il s'agissait, très bien vu la différence entre le moment de la confession et le moment de la confidence.
On va revenir sur la différence entre confession et confidence, mais la confession est plus forte que les lois françaises ?
Alors le problème, vous voyez, des médias aujourd'hui, c'est qu'elles sortent un bout de phrase, le début de la phrase, sans retenir le reste. Et donc, qu'est-ce que va retenir les gens ? C'est le reste.
Le reste, ce moi, qu'il expliquait, pas, c'est qu'il faut des dire, mesures vais, très précises.
Voilà, c'est ça. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas envie d'entrer dans une polémique. On n'est pas dans le temps de la polémique. Ce rapport, c'est 2 ans et demi de travail. Personnellement, depuis mardi, je n'ai pas eu le temps de le lire. Je cours depuis mardi, en fait.
Hein. 485 pages.
Je n'ai pas eu le temps de le lire. Je ne suis pas sûr que les journalistes aient eu le temps de le lire non plus. Et donc, on va prendre le temps de le lire et de l'étudier. Et de l'étudier sérieusement, vous voyez. Et donc, comment vous dire ça ? Le secret de la confession, c'est quelque chose pour nous d'important. Donc, il faut qu'on l'étudie aussi. Et ce qu'a dit, d'une manière complète, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, c'est l'ensemble, comme vous venez de le citer, qu'il faut retenir. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans une polémique et je trouve qu'elle n'a pas lieu d'être. Pour l'instant, on est dans le temps, j'allais dire, la douleur des victimes. On n'est pas encore dans le temps d'études précises, des mesures de la CIA. Ça, c'est le temps qui s'ouvre là.
N'entrons pas dans la polémique, mais entrons justement. Alors, il y a eu 45 recommandations, mais on le sait, du côté du diocèse de Gap et d'Embrun, il y a eu des journées de formation qui ont été menées. Vous, que dites-vous aux religieux ? Que dites-vous aux clercs ? S'il y a un signalement d'actes de pédophilie, de victimes qui venaient à se confesser, est-ce qu'il faut signaler ? C'est là le sens de ce protocole qui a été signé avec le procureur ?
Non, c'est pas le sens de ce protocole. Dans le protocole, on ne parle pas du secret de la confession, évidemment.
Secret de la confession, c'est presque secret professionnel.
On avait programmé depuis 2 ans, mais avec le Covid, ça a été retardé, une journée de formation. Ce sera la 4e journée de formation pour les prêtres. Enfin, et là, elle sera réservée aux prêtres, justement, qui confessent sur la question de la confession. Ce n'est pas seulement la question du secret, c'est la question de la délicatesse qu'il faut avoir sur tous ces sujets-là. Et les situations sont différentes. Est-ce que c'est un adulte qu'on reçoit ? Est-ce que c'est un enfant qu'on reçoit ? Voilà. En tout cas, ce que je peux témoigner moi-même, à la fois comme me confessant régulièrement, c'est que c'est un sacrement de la résurrection, c'est un sacrement du relèvement. Et je peux en témoigner, j'ai été recteur d'un sanctuaire, et dans les sanctuaires, on confesse énormément, comme à Notre-Dame-du-Lot. Les gens arrivent au confessionnal détruits, accablés, les épaules avec lourdes d'un poids, et ils repartent de là libérés. Donc c'est un vrai sacrement de libération, un peu comme quand vous allez chez votre psychanalyste et que vous pouvez parler. C'est un lieu de parole.
Mais le secret professionnel peut être levé, justement, quand il y a soupçon d'abus sexuels. Voilà. Il doit être levé, même c'est dans la loi française.
C'est dans la loi française. Alors on va étudier tout ça encore plus précisément. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui,
c'est
le secret de la confession pour nous est un secret absolu parce que c'est un lieu de liberté. Et si ce secret n'est plus absolu, eh bien je pense que ce ne sera plus un lieu de liberté. Et puis je pense qu'on parle un peu en hypothèse, c'est-à-dire que c'est extrêmement rare qu'un pédophile vienne se confier en confession. Vous comprenez ? Donc on parle en hypothèse là. Et donc pour quelques cas d'hypothèse, évidemment, ça sera, si il refait des crimes après, c'est dramatique, on est d'accord, mais faut-il détruire un sacrement qui fait tellement de bien, vous voyez ? Et quant à ce que disait Mgr de Moulin-Beaufort, il faut distinguer ce qu'il a expliqué à la commission sénatoriale. C'est un sujet vieux comme le monde, le secret de la confession.
C'est quoi la différence entre confession et confidence ? Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, puisque le président de la CIAZ a parlé aussi de la miséricorde.
Oui. Et donc, en clair, on peut très bien dire à un moment, demander au pénitent, écoutez, là, on va arrêter la confession là. Et si vous voulez qu'on continue à parler, eh bien, ce ne sera plus dans le temps de la confession. Et là, effectivement, quand ce n'est pas dans le temps de la confession, on peut, parce que parfois, c'est d'ailleurs des choses dont on va discuter avec les prêtres, parfois on mélange accompagnement spirituel et confession. Et donc, il est évident que le secret est absolu pour nous concernant la confession, cette partie-là, si vous voulez, de l'accompagnement spirituel, mais pas de tout dialogue avec un prêtre.
La confession, le secret doit être total, absolu, vous l'avez dit, mais quand il s'agit d'un accompagnement spirituel, dans ce cas-là, il n'y a plus de secret professionnel, on va dire.
Il y a un secret professionnel, mais il peut être levé. Et la personne le sait à ce moment-là, vous voyez. Et donc, il s'agit que les choses soient claires. Et je prends un exemple. Ça, c'était déjà dans ma formation quand j'étais jeune prêtre ou séminariste. Vous voyez, on dit par exemple, quand on passe de l'un à l'autre, il faut qu'il y ait un geste clair pour montrer qu'on passe de l'un à l'autre. On change d'emplacement. On prend une étole, une bande de tissu, on allume une bougie, on rentre dans autre chose, si vous voulez.
Voyez. Justement, alors on va revenir aussi sur cette conférence que vous avez pu mener immédiatement après la présentation de ce rapport Sauvé, où vous l'avez dit, il y a eu depuis 1978 11 cas de prêtres abuseurs dans les Hautes-Alpes. Le procureur donc, que l'on a contacté a expliqué qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête en cours.
C'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait, il n'y a pas d'enquête en cours actuellement, c'est-à-dire que les dossiers ont été traités, puis un certain nombre aussi de ces prêtres sont décédés aussi, donc il n'y a plus d'enquête possible par là. Mais quand je dis ça, c'est le nombre de dossiers que j'ai traités, ça veut peut-être dire qu'il y en a plus aussi, et surtout un de vos confrères ou une de vos confrères m'a demandé combien de victimes, je suis incapable de le dire.
Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à dire combien de victimes ?
Mais parce que il y a les victimes qui ont pu parler, si vous voulez.
Et combien de victimes ont pu parler ?
Au moins une par dossier, si vous voulez. Au moins une par dossier. Voyez. Mais il y en a certainement beaucoup plus. Après, quand j'ai annoncé ce chiffre, j'ai beaucoup hésité lors de ma lettre pastorale. J'avais annoncé 5 à l'époque. Hein. Et donc là, j'ai la mise à jour depuis 2018.
Avec 6 cas supplémentaires.
Plus, voilà. Je suis aussi incapable de dire s'il y a eu des faits qui ont eu lieu dans le diocèse ou hors du diocèse. En tout cas, ce sont des prêtres qui ont été en mission dans le diocèse, soit des diocésains, soit des religieux, pour un temps, un an, voilà. C'est aussi pour ça que le calcul du taux de prévalence a été très difficile, parce que mon archiviste vient de quitter le service du diocèse, voilà, pour des raisons professionnelles, son épouse a trouvé un autre métier ailleurs. Et quand il était en 2018, il m'avait fait le calcul très précis du nombre de prêtres qui étaient en mission depuis 1978, au moins pendant un an. Et là, je suis incapable de le faire depuis 1950. Quoi. Donc j'espère qu'un jour, je vais avoir un nouvel archiviste qui puisse faire ce travail. Quoi.
Est-ce que depuis, on a eu des signalements ?
Alors moi, je n'ai pas eu de signalement en tant que tel depuis, mais on s'attend à avoir des signalements. Et c'est-à-dire que j'ai demandé à la personne qui accueille le numéro de téléphone, le 06 et l'adresse mail, d'être bien attentif à cela, hein, et de ne pas traîner à répondre à cela.
Vous dites quoi aux victimes présumées aujourd'hui ? Parlez ?
Bien sûr.
Venez me voir ?
Ça, depuis le début. D'abord, on leur dit, allez voir le procureur. C'est la première chose. Hein. Avant même de venir me voir, allez voir le procureur. Et puis après, on leur laisse le choix. Parce qu'il y a certaines victimes qui ne peuvent pas rencontrer un prêtre, qui ne peuvent pas rencontrer un évêque, qui est le représentant de l'institution, dont un des membres leur a fait un mal incommensurable. Et donc, on leur propose plusieurs choses, si vous voulez. Par exemple, la cellule d'écoute. Et ça, je suis heureux que petit à petit, on puisse passer le relais à une cellule d'écoute nationale, parce que notre cellule d'écoute locale, en 4 ans, a écouté 2 personnes. Et donc, c'est difficile de maintenir une formation, un intérêt. Voilà. Et puis, ce sont des bénévoles. Donc, alors, ce sont certes des gens qui étaient des professions médicales et donc qui connaissaient, qui avaient une capacité d'écoute qu'on a choisie. Mais donc là, on souhaite passer vraiment à des professionnels, payer des professionnels pour ça. Quoi.
Est-ce qu'il y a un prêtre psychanalyste, ce sera ma dernière question, au sein du diocèse, justement pour accompagner les clercs, les religieux, les laïcs également ?
Alors, pas dans le diocèse, mais on a la chance d'avoir un prêtre psychanalyste à Aix-en-Provence, hein, le père... On l'appelle le Père Noël, son prénom c'est Jean Noël, je crois. Et il est venu nous faire une formation, une des journées de formation des prêtres, il est venu nous faire une formation sur deux aspects, à la fois qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant abusé, quoi. Et puis qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'abuseur. Voilà. Et ça a été très éclairant pour nous. Je crois qu'on est au début de cette science, en réalité, de l'étude des victimes, et on est passé au niveau de la société civile, de la justice et donc de l'Église aussi, parce qu'on suit un peu toute la grande société. On est passé de l'intérêt d'abord à l'abuseur. On a d'abord, c'était les coupables dont on s'occupait. On ne s'occupait pas des victimes. Aujourd'hui, on s'occupe des victimes et c'est heureux. Mais on est au début des recherches cliniques, des recherches sociologiques. Et je crois que le rapport de la SIAZ sera une pierre de fondation pour toutes ces recherches. Et donc, je crois qu'on peut remercier la SIAZ, qui est vraiment une aide pour nous-mêmes et finalement plus largement aussi.
Merci beaucoup, Monseigneur Xavier Mal, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpeur. Je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse de Gap et d'Embrun. Merci.
Merci.